C'est bon ? Alors R22, tout le monde, antenne Arsport 2024. Et après ?
Bonjour Adriana, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, moi je suis Adriana Martinez, je suis d'origine du Venezuela. Ça fait 12 ans et demi que j'habite en France. Je danse le break, je suis danseuse du break et mon place du break c'est Campanita. Je danse du break depuis 10 ans à peu près. Et je commençais au Venezuela, là je connais pas mal de pays où je me développais dans la danse aussi. Et voilà, à peu près ça.
Et comment tu es venue au break?
En fait, j'étais à l'école, au lycée, et j'avais un ami qui avait des contacts avec des gens qui dansaient du break. Là, c'était un espace public d'ailleurs, c'était visuel pour tout le monde. Je suis passée dans cet endroit, j'ai vu tout le monde danser, et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Après, petit à petit, chaque fois que je connais un peu plus de la culture, de tout ce qui est autour du break, je me mets de plus en plus dedans. Ça continue en fait. Je me mets à le break tous les jours. C'est une chose de tous les jours.
Et est-ce que tu peux nous parler des liens qu'entretient le break avec les milieux de l'art et les milieux du sport?
Oui. Et en fait, il y a beaucoup de liens pour les deux choses. Et le break, c'est un art principalement. Il y a la danse dedans, il y a l'expression dedans, il y a des personnalités qui se développent et dans des battles, etc. Il y a un lien très, très, très proche à l'art. Et à l'esport aussi, parce que c'est vrai que c'est une discipline quand même assez physique. Et de toute façon, avant, on ne pensait pas trop comme un sport. C'est plutôt maintenant qu'il y a plus de techniques pour les entraînements. Les entraînements, ils ont changé, la manière d'entraîner, la manière de danser. Et justement, parce que ça arrive de plus en plus de battles importantes, il faut avoir une manière ou une technique ou une chose précise. Et ça, c'est la répétition. Et c'est pour ça que ça crée le lien avec le sport.
Et actuellement, le break entre aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que tu peux nous parler des débats que ça a engagés dans la communauté à ce sujet?
Oui, précisément, c'est lié avec la même chose de l'art et le sport. Parce qu'il y a des gens qui ne considèrent pas que le break, c'est un sport. Et parce que dans le sport, dans cet encadrement, il y a beaucoup de choses qui sont encadrées déjà. Et dans le break, c'est plutôt la liberté, en fait. La façon de faire les choses, ta façon de faire les choses. Et tu n'as pas un manuel correct ou certain pour faire les choses. Alors que le débat part justement de... Tu ne peux pas m'encadrer parce que le sport encadre un petit peu les choses. Alors qu'il y a un débat de je suis d'accord, je peux faire le sport et je ne suis pas d'accord parce que je suis un artiste, je danse. Et c'est plutôt ça aussi, il y a derrière une culture le break, il est dedans une culture, que c'est un mouvement, ça s'appelle hip-hop, et c'est un style de vie aussi qu'on choisit à faire. Et ça ne va pas trop dedans les sports, parce que c'est plutôt la liberté en fait, de faire les choses, un style de vie que tu choisis, que tu kiffes. Pas seulement dans une compétition, dans une performance, mais aussi dans ta vie quotidienne, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats de l'ancienne génération avec la nouvelle génération, parce qu'il y a un décalage aussi. Le break, il a évolué trop rapidement. Et avant, ça fait 5 ans, il n'était pas trop comme ça. Et maintenant, ça va rentrer dans les Jeux Olympiques. C'était vraiment rapide. Et on parlait d'une culture qui n'est pas trop... Et ancien, c'est 60 ans, alors que c'est vraiment un changement rapide, c'est une évolution rapide, et ça fait que les débats, ça va être plus grand, parce qu'il y a une culture dedans aussi, une culture derrière, que peut-être dans les Jeux Olympiques, ça ne pouvait pas se passer. Dans les Jeux Olympiques, ça va être juste les côtés visuels et pas les côtés, on va dire, sentimentaux, je ne sais pas si dire sentimental personnel, en fait, de la vivance, de l'expérience.
Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce côté sentimental, vivant, cet aspect de l'ex- l'expérience. Qu'est-ce qui, toi, te tient à cœur dans la culture break? Et qu'est-ce que tu crains qui pourrait être perdu, en fait, dans l'assignation du break en tant que sport?
Oui, en fait, pour moi, personnellement, comme je suis connue le break, pour moi, c'était vraiment un choc d'amour. C'était pas j'ai envie de gagner un battle, c'était plus j'ai envie de faire ça avec mon corps et de réussir et d'évoluer. Et aussi, ma vie, si je n'avais pas choisi au connu le break, et en fait, ma vie, c'était, ça serait peut-être perdu. Parce que je viens d'une famille un peu, et c'était pas stable, j'avais beaucoup de problèmes personnels dans l'époque. Et le break m'a donné ça, cette force pour sortir de ça et pour avoir des rêves, pour avoir des objectifs, pour avoir d'espoir, des forces dans mon personnalité. C'était vraiment personnel pour moi, c'était vraiment sentimental pour moi. Et je pense que la nouvelle génération vient plutôt pour se sentir star, pour se sentir un peu importante, vue, reconnue, plus que vraiment le sentimental. C'est plus que savoir d'où ça vient la culture, pourquoi on le fait, pourquoi on danse proche à le sol, pourquoi la musique elle est avec un bass. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont liées, que la nouvelle génération ne connaît pas, juste parce que la nouvelle génération s'est intéressée à faire les côtés physiques, les côtés entraînement, les côtés sport. Et je n'ai pas envie de dire que ça va se perdre, parce que moi, en tout cas, je continuerai à faire le hip-hop comme je le fais, sentimentalement et aussi professionnellement, parce que maintenant, aujourd'hui, heureusement, on a les deux choix, les deux chemins pour le faire. Alors, je n'espère pas que les Jeux Olympiques ou l'arrivée du break à les Jeux Olympiques va faire perdre cet espoir. Et ça va dépendre des coachs et des gens qui sont en train de mettre ça en place et de nous-mêmes, notre jour à jour, de comment on montre notre discipline dans le sud du monde. Mais ça peut, c'est vrai que ça peut peur de un peu le côté voilà, sentimental, le côté important pour moi. C'est comme si un policier se met à être policier juste pour sa vie et pas pour défendre sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté important des vocations, des sentimentales, de je suis là pour ça et j'ai choisi ça parce que ça me fait sentir ça et ça, et pas seulement parce que j'ai envie de faire des choses incroyables avec mon corps. Parce qu'aussi, il y a le côté danse, en fait. Il n'y a pas seulement le côté incroyable de tourner sur ta tête, il y a aussi la danse, l'expression, la personnalité, comme je t'ai dit juste avant.
Et l'espace public, ça prend une place importante dans ta pratique du break?
En fait, pour moi, c'est dans mes débuts, c'était toujours mon entraînement, c'était fait à l'espace public. Ça fait deux choses, plusieurs choses de positives, mais moi, ça m'a marqué deux choses de positives. La première, c'est que les gens s'intéressent à savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Il y a des gens qui vont s'approcher et te dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, nanana, et tu peux l'expliquer à les gens. Et un côté éducationnel, je ne sais pas si c'est dit comme ça, éducatif, oui. Éducatif, éduquer les gens, qu'est-ce que tu es en train de faire. Et la deuxième chose, c'est vraiment les intéressés, les petits, et les jeunes, et trouvent une façon d'être libre, en fait. Ils s'étaient approchés avec les gens, que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, pour moi, c'est bien, en fait. Et l'espace public aussi, ça inspire beaucoup. Dans mon cas personnel, j'adore entraîner dans des espaces ouverts, que je puisse voir les gens passer, ou les ciels, ou même ça inspire, en fait, de pouvoir être dans un espace public.
Et tu disais tout à l'heure que il fallait danser près du sol avec des grosses basses et qu'il y avait des raisons pour ça. Est-ce que tu peux nous parler en fait de la façon dont tu choisis l'espace public et voilà, qu'est-ce qu'un bon espace public pour faire du break?
Oui, bon, ça c'est un peu compliqué parce que pas dans toutes les villes il n'y a pas d'espace propre pour pouvoir aller au sol. Mais il y a des gens qui sont, bon, moi en tout cas, encore une fois personnellement, en Latinoamérique, on entraînait n'importe où. juste pour entraîner, en fait. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'était plutôt cool si la police me laissait entraîner dans l'espace que c'est cool, mais la police ne me laissait pas, tu vois, parce que ce n'était pas un espace à habilité pour faire art ou pas bah, maintenant, art et sport. Et c'était toujours aussi beaucoup vandalisé, les côtés break, alors que pour moi, un côté, pardon, pour moi, un espace public avec un sol propre plutôt glisse, et qui glisse, que ça lisse, c'est la meilleure option. Mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des endroits comme ça dans plusieurs villes. Par exemple, moi j'habite à Nice en ce moment. Et pour trouver un espace pour m'entraîner, c'est public et il n'y a pas. Et je dois ramener mon tapis et ce n'est pas trop confortable quand même. Mais je l'utilise parce que j'adore.
Et tu disais aussi que l'espace public était inspirant. Regarder les passants, le ciel, comment ça t'inspire et comment ça vient modifier ta danse, l'espace public?
Oui, en fait, ça m'inspire en tout parce que aussi, je peux voir dans les gens qui passent et comment ils sont aussi concentrés dans ses objectifs, dans sa façon de faire les choses, que c'est peut-être pas du tout à voir avec le break, mais je peux voir la consistance de les gens, en fait, d'aller à son travail, de se poser juste à boire de l'eau pour respirer et voir son hauteur. Ça m'inspire de voir comment chacun choisit sa vie et voir comment dans le temps ça passe. Et moi, je suis là en train d'entraîner une chose que ça pourrait servir pour le futur ou peut-être pas, juste pour m'amuser. Alors que tout ça, ça m'a fait inspirer et les relations humaines dans les espaces publics. Et c'était quoi la autre question, pardon?
Tu as très bien répondu. T'as dit tout ce qu'il fallait. Mais j'ai quand même une autre question. Je me demandais la façon dont ton genre joue dans l'espace public. Comment t'es perçue? Quelle place ça te fait prendre? Quelle place tu prends?
Ouais, en fait, la place que moi je prends, c'est la place que j'ai. Je suis danseuse, je m'entraîne et ça, c'est quelque chose de sérieux pour moi. Après, les gens, comme je te disais avant, il y a des quelques-uns qui jouent le break comme un vandalisme, comme des gens qui sont en train de rien faire. Plutôt dans Latinoamérique, ici en Europe, c'est vrai que ça change beaucoup. Il y a plus de culture pour voir ça comme un art et pas comme que tu es en train de faire des choses mal ou inservibles. En Latinoamérique, dans les espaces publics, c'est un peu chaud. Les gens te voient comme tu es en train de rien faire, en fait, de jouer avec rien ou de nettoyer le sol. C'est plutôt ça que les gens disent. Et aussi, comme femme, en tant que femme, il y a beaucoup de approches, peut-être comme on doit faire des figures, des efforts. Et des fois, on se met dans des figures que c'est... Voilà, notre corps, c'est différent. Des fois, il y a des hommes qui s'approchent juste à déranger et ça passe pas quand tu es avec un b-boy ou quand c'est plusieurs b-boys et c'est un peu inconfortable ces côtés, mais de plus en plus maintenant ça commence à diminuer, plutôt aussi parce que moi personnellement comme femme je prends ma place, si je dis désolé je suis en train de m'entraîner et tu me déranges pas s'il te plaît hein? mais c'est vrai que chaque pays, chaque endroit, ça va changer la vision comment les gens te voient quand tu es en train de faire du break dans un espace public. Ils vont avoir des gens qui vont kiffer, qui vont te demander, qui vont dire courage. Ils vont avoir des gens qui vont dire tu es en train de rien faire. Ça dépend de la mentalité de l'endroit, de la personne et voilà.
Et c'est dans l'espace public que tu as appris le break. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se transmet, en fait, le break dans la rue et qu'est-ce que ça apporte d'apprendre dans ces conditions-là?
Oui. En fait, quand je suis connue le break, pour moi, vraiment, personnellement, c'était le côté libération. C'était genre, je voyais que les gens qui sont en train de s'entraîner là ont été vraiment motivés, contente et avec cet espoir de réussir et comment cet espoir de réussite ou ouais, de contente en fait de réussite que ça m'a attiré. Dans l'époque j'avais besoin de ça de me sentir capable. Et les gens qui sont en train de break, c'est vraiment ça qui inspire en fait. Tu vois des gens tourner sur sa tête, monter sur les bras et aller sur les dos et tac, tac, tac. Et tu dis tellement waouh, je suis en train de pleurer pour un petit problème de la vie. Et cette personne est en train de tourner dans sa tête, c'est incroyable. Ça veut dire que tout c'est possible. C'est plutôt ça qui m'a transmis, voir les gens danser. Ici, il n'y avait pas cet endroit public comme des passages où les gens s'entraînaient. Moi, je n'avais pas connu le break parce que si c'est fermé, il n'y a pas à transmettre. En fait, il n'y a pas des gens qui voient de qu'est-ce que c'est, comment les gens ils s'entraînent tous les jours, constamment pour pouvoir y arriver. Et tu vois le process de la personne. Tu vois, je pense que l'espace public, c'est vraiment un clé pour pouvoir transmettre les bons côtés et changer aussi les mauvais côtés, parce qu'il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a les mauvais côtés. C'est vrai qu'il y a des gens partout, hein, les politiciens aussi, tout le monde, personne n'est parfait. Il y a des mauvais côtés et des côtés positifs. Alors que je pense que les espaces publics, c'est un clé pour pouvoir transmettre les côtés positifs de l'UBREC.
Et est-ce que tu peux nous raconter, nous décrire le lieu où tu as appris, toi, le break, pour qu'on essaie d'imaginer à quoi ça ressemblait, comment les choses se discutaient, qui était là, combien il y avait de personnes, à quelle heure ça se passait, quelle était la musique. Est-ce que tu peux nous décrire cette ambiance?
Oui. Bon, c'était... le lieu s'appelle Parque Central, en Venezuela. C'est vraiment le centre de Caracas. Et c'était comme les côtés... Comment je dis sótano en français, un estacionnement, un parking. C'était un parking, voilà. C'était genre les couloirs où tu dois traverser pour aller au parking ou aller à les immeubles de lieu, en fait. C'était en face d'un gym, alors qu'il y avait beaucoup de concurrence. Il y avait aussi à côté un théâtre dans cet étage. Et il y avait beaucoup de monde tout le temps, beaucoup, beaucoup de monde. C'était un espace où tous les b-boys de Caracas allaient pour s'entraîner parce que c'était, voilà, il n'y avait pas de problème avec la musique parce qu'on ne dérangeait personne. Et il n'y avait pas de problème avec la quantité de gens parce que quand même, on laissait un petit espace pour que les gens transitent. Et de toute façon, les gens, ils passaient par là et nous voir danser. Parce que des fois, on était tellement beaucoup et on faisait des battles, improviser, etc. Et ça rapportait toujours un bon ambiance. La musique, c'était la musique à l'époque, James Brown, breakbeats de l'époque, plutôt ça. Et tout le temps, c'était débrouillé dans une bonne ambiance. J'ai jamais vu de problème là, jamais. Et des fois, on changeait de location dans un autre étage, dans le même lieu, parce que peut-être on était moins et c'était plus petit. Et aussi parce que des fois, il y avait des différences de crew, alors que les crews préféraient danser entre ces crews et pas tout le monde. Et en fait, on s'est posé dans différents endroits. Et voilà, c'était vraiment cool l'année.
Et est-ce que ça laisse des traces sur le corps de travailler dans l'espace public?
Oui, des fois, oui. Par exemple, dans cet endroit, et pas trop, parce que le sol, il était plutôt cool, bien. Mais, par exemple, moi, je m'entraîne maintenant, justement, en Nice, que le sol, il n'est pas bien du tout, comme pour faire du break. Et là, j'ai plus de chaussures, par exemple. J'ai cassé toutes mes chaussures. Mes mains, j'ai des trous dans mes mains pour le footwork parce que le sol est rustique. Et mes genoux, j'ai des bleus partout parce que le sol n'est pas assez propre pour y aller avec confiance. Et ça aussi, ça fait diminuer, on va dire, le level parce que dans quelques côtés du break, par exemple, il y a des footwork, power move, top rope. Bon, dans les power moves, tu ne peux pas t'entraîner en power moves parce que c'est impossible de mettre la tête sur cette zone-là. Alors que si, oui, il laisse des traces dans le corps, entraîner dans un espace public pas trop propre.
Et est-ce que tu peux nous parler de la vidéo? Quelle place ça a dans le break?
Oui, et maintenant c'est tout. Maintenant c'est vraiment ça, c'est un truc pour moi incroyable la façon de comment le break s'est intégré mais parfaitement dans les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans filmer aussi à nous-mêmes. Ça nous sert parce qu'on peut filmer notre entraînement et nous rappeler tout le temps de ce qu'on est en train de travailler et de les steps et tout. Et alors que pour moi, ça joue beaucoup. Et en ces moments, dans le break des vidéos, c'est comme je dis depuis tout à l'heure, il y a le côté positif et le côté négatif. Mais si on utilise bien, bah, le côté positif, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien d'avoir cet outil. Et bon, en tout cas, moi, je n'ai pas de mémoire, par exemple, mon mémoire, elle est super courte. Et les vidéos, ça me sert à pouvoir me filmer et me rappeler des choses. Aussi, en ce moment, avec la situation COVID, c'est avancé un million de compétitions online qui s'est fait par vidéo, et même des compétitions très importantes comme Red Bull le font, et en ce moment, des compétitions par vidéo, alors que vraiment, dans ce moment, c'est bien.
Et du coup, est-ce que tu peux nous faire une petite typologie des vidéos qui existent dans le break? Les vidéos, elles peuvent servir à quoi, par exemple? Tu disais à travailler la mémoire, à transmettre des mouvements. Est-ce qu'il y a d'autres utilisations de la vidéo?
Et non, plutôt pour se montrer, en fait. C'est vraiment une fenêtre de talent. Tu peux mettre cette vidéo ou tu peux aussi faire des auditions. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent servir, en fait. Surtout pour se montrer. Pour moi, c'est vraiment le côté de montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est ça.
Et comment ça se réalise? Comment toi tu les réalises par exemple les vidéos?
Et bah, des fois, je le pense avant de le faire. Je pense faire vraiment une chose spécifique. Mais sinon, c'est plutôt je mets à filmer mes entraînements. C'est comme ça. Quand c'est pour une compétition ou quelque chose, bah oui, je dois vraiment avoir peut-être une personne qui me filme parce que je ne sais pas si je peux sortir de la caméra en bougeant. Mais normalement, c'est voilà, je pose mon téléphone et je fais une vidéo.
Et tu utilises les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont transformé les façons de faire de la vidéo?
Oui, ça, les réseaux sociaux, ils ont vraiment influencé la façon de faire des vidéos, surtout pour l'image. Maintenant, les gens, ils dansent moins, ils c'est juste, je vais mettre cette veste, cette lunette. Et cette chaussure et le vidéo va être cool, c'est parce que dans les réseaux sociaux, c'est ça en fait, l'image qui vend plus que les talents, je pense. Mais c'est chacun, voilà, chacun son point de vue. Et aussi, il y a des goûts pour tout le monde. Il y a des gens qui vont faire un vidéo plutôt juste danse ou des créations avec des endroits ou avec des belles vues. Mais ça a influencé beaucoup la façon de faire parce que maintenant c'est tout, voilà, l'image. C'est plutôt je fais une vidéo pour montrer comment je suis de cool et pas juste parce que j'ai le feeling de danser en ce moment. Parce que si tu as le feeling de danser en ce moment, peut-être tu n'as même pas le temps de mettre le téléphone pour te filmer. Alors que ça a changé beaucoup. Maintenant on voit en vidéo et c'est vraiment prémédité que feeling, quoi, que danse. C'est plutôt performance maintenant pour l'influence des réseaux sociaux.
Et est-ce qu'il y a aussi une utilisation des réseaux sociaux pour militer? Est-ce qu'il y a des sujets de débat dans le break qui passent par les réseaux sociaux?
Oui, il y a des gens que bah, par exemple, moi, j'ai mon projet entre vigueur, ça s'est créé pour les réseaux sociaux, en fait. C'était depuis le début. Pour les réseaux sociaux, ils étaient en militance dans une problématique des femmes dans le break. Et il y a aussi bah, les débats des Jeux Olympiques. Il y a des gens de l'ancienne génération qui mettent des questions, etc., des informations, de qu'est-ce qui est en train de se passer. Et oui, ça fait un lien aussi mondial. On peut savoir là-bas, en Venezuela, en Colombie, en Pérou, en Latine, en Asie, en Inde, qu'est-ce que c'est en train de passer avec le break? Aussi dans les compétitions plus grandes, pour savoir qui a gagné, et telle compétition, que c'est important, que c'est qui entre dans les circuits, et voilà, et il y a beaucoup d'informations.
Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton projet Entre Big Girls?
Oui, c'était un projet que je suis créé en confinement de l'année 2020, et en mars. Et bah, je suis créée Entre Big Girls. Au début, c'était juste pour parler avec des big girls de Latinoamérica. Et par rapport à comment nous, on doit s'en sortir en tant que, déjà en tant que Latinoamérican, pour pouvoir arriver à vivre de notre passion, comme la danse, que c'est archi difficile en Latinoamérica. Et en plus, on lui ajoute qu'on est des femmes et malheureusement, le monde, il y a façon de faire les choses plutôt côté homme, et en plus le break c'est plutôt côté vraiment masculin, alors que c'est difficile pour nous de nous sortir déjà comme latino-américain et comme femme. Et ça m'a, moi je voyage pour toute Latinoamérica, je connais toute Latinoamérica du sud et je connais un peu cette problématique et de face. En fait, je passais par cette étape, je suis victime d'abus dans le break. Je sais des gens qui ont passé pour la même chose, des filles qui sont entrées, ils ont voulu faire sa carrière comme big girl et à cause d'un abus, d'un cause, ou de, voilà, ils sont sortis, ils ne sont pas faire sa carrière, tu vois, ils ont laissé ses rêves de côté juste parce qu'ils ont trouvé une nouvelle personne dans le milieu. Alors que je suis fait des interviews à des big girls reconnu de l'Amérique du Sud, parce que je sais que chacun de nous, on a un public, on a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Alors, je suis pris les personnalités les plus importantes de chaque pays pour parler de ce sujet. Comme ça, s'il y avait des filles qui sont en train d'entrer ou qui sont passées par une situation un peu pareille, ils peuvent avoir des inspirations pour s'en sortir ou justement pour parler entre nous, les femmes, comment on peut faire pour réussir à quitter ce problème, à prendre notre place, à ne pas avoir de peur, etc. Au début, c'était ça. Après, comme je suis vue que ça a donné vraiment un résultat que je ne m'attendais même pas, et maintenant, il y a des groupes dans chaque pays, de tous les bigards, de les pays, pour parler de tout ce sujet de communication. Ça, c'est grâce à Entre Bigards. Comme ça a donné beaucoup de résultats, bah, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai envie de faire la même chose en Europe, avec les bigards d'Europe aussi, parce que je sais que les bigards ici sont tellement connus dans le monde. Et en Latinoamérique, on voit comme exemple les bigards ici. Mais on la voit juste en vidéo YouTube, et c'est juste la performance dans un scénario, mais on ne voit pas ces luttes derrière. Et je suis sûre, bah, je suis sûre, et je l'ai confirmé dans mes interviews, que c'était un peu la même lutte, même si il y a beaucoup plus d'opportunités parce que les grandes compétitions se passent ici. De toute façon, la place de la femme, elle n'est pas prise à la complétude, en fait. Et les compétitions ici en Europe, des fois, tu as B-Boy et B-Girl, et les DJ les plus connus, tous jouent pour les B-Boy, ils nous mettent un DJ n'importe qui pour les B-Girl, alors que tu ne peux pas kiffer bien la battle parce que tu n'as pas un DJ professionnel dans ton battle. Bigger, mais les b-boys, ils le sentent, tu vois. Alors que je suis en train de voir les bigger d'ici d'Europe, les plus reconnus, que aussi, bah, je la connais parce que je suis voyagée pas mal ici en Europe, je suis dansée, bah, Cypher, etc., je fais les connexions. Et on a pas mal d'informations aussi avec elles, ça a explosé beaucoup plus le projet, il a beaucoup plus intéressé, même que les bigger d'ici d'Europe, ils ont voulu entrer. Et pour pouvoir avoir cette information aussi. Et après, je suis finissée la dernière étape avec des professionnels. Parce que je sais que tous les problèmes qu'on a parlé pendant toutes les interviews et toutes les conversations qu'on avait, il y a, je sais, des problèmes psychologiques, il y a des problèmes d'autoestime, il y a des problèmes de que les femmes ne se connaissent pas trop parce qu'il n'y a pas d'information pour nous, tout c'est un tabou, etc. Et j'avais des gynécologues, des psychologues, des nutritionnistes, des communicateurs social, et beaucoup, comme ça, beaucoup de professionnels, pour pouvoir arriver à développer tous les doutes qu'on a trouvés dans les autres interviews. Et voilà, pour le moment, c'était ça. Maintenant, j'aurai pas continué à faire mon projet, que ça peut partir plus loin. Et on tente de faire des rencontres physiques, des rencontres où on peut parler pas seulement avec les femmes dedans le break, sinon les femmes en général. Et tout le monde, on a tous passé un peu pour cette problématique en tant que femme. Et je crois que c'est un projet que ça peut donner des fruits, des bons résultats pour tout le monde, en fait. Ça a commencé côté break, mais je pense que ça peut donner des résultats pour tout le monde.
C'est clair. Et est-ce que tu peux nous parler aussi de Illegal Crew?
Oui, Illegal Crew, c'est un crew justement de filles. Et en ce moment, jusqu'à ce moment, on est que des filles parce que ça pouvait être aussi que ça rentre en garçon après. Mais en ce moment, c'est juste des filles. Ça s'est créé pendant un voyage l'année 2019, je pense, entre Big Girls. On était tous des Big Girls. On était un squad de 8-9 Big Girls. Et on a voyagé partout les grosses compétitions de l'Europe, et tout ensemble, alors qu'on a trop kiffé. Et on est tous dans le crew, on est quatre. On est tous de l'Amérique latine. Il y a Anita, qui c'est de l'Argentine. Il y a Samantis, qui c'est de Chili. Il y a Petisa, qui c'est de Chili aussi. Et moi, que je suis du Venezuela. On habite tous en différents endroits. Mais on a créé le crew plutôt parce qu'on a compris vraiment. Et dans le voyage, tout ça qu'on ressent comme fille, comme big air, comme hip-hop, comme ça, on a tous la même vie, à peu près la même vision de comment on vit dedans la culture. Et voilà, ça, on a créé le crew pour pouvoir le refaire et pour pouvoir aussi partager notre vision de les choses.
Merci beaucoup et longue vie à Illegal Crew et au projet Entre Big Girls. On espère vraiment que ça va continuer à s'étendre. Vous ouvrez la voie, c'est magnifique.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt, merci.